à toutes et à tous, vous écoutez Radio Moulin. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui nous concerne toutes et tous, mais auquel on pense encore trop peu, la qualité de l'air dans nos logements. On parle souvent de pollution de l'air extérieur, des particules fines, ou encore des émissions liées au trafic routier. Pourtant, l'air de nos intérieurs, celui que nous respirons chez nous, au travail, dans les écoles, peut lui aussi être fortement pollué, parfois même davantage que l'air extérieur. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Barbara, coordinatrice santé à la maison de quartier, ainsi que Mathilde Druel, conseillère médicale en environnement intérieur à l'APA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Donc, depuis une quinzaine d'années, la pollution de l'air intérieur s'est imposée progressivement dans le débat public, jusqu'à devenir aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Donc Mathilde Druel, pour commencer, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de pollution de l'air intérieur ?
Eh bien, c'est plus ou moins la même chose que la pollution de l'air extérieur. Ça va être effectivement tout ce qui est amené par l'être humain et qui va perturber les organismes de l'environnement intérieur et donc principalement les êtres humains. Donc c'est vraiment comment les polluants qu'on a chez nous vont influencer sur notre santé. Et principalement respiratoire, puisque nous allons respirer ces polluants principalement.
Et ils sont de quelle nature ces polluants ? C'est quoi les principaux polluants en nos intérieurs en France par exemple ?
On a plusieurs sortes. On a les polluants biologiques, qui vont être plutôt liés à la présence d'humidité, la présence d'animaux, la présence de plantes dans le logement, ce genre de polluants. Et on a aussi tout ce qui est polluants chimiques, avec le tabagisme, et aussi tout ce qui est utilisation de produits chimiques, parfumés, les parfums, les produits ménagers, les produits désinfectants qu'on utilise pour nettoyer son logement.
Alors, ce qui m'a frappé personnellement avec cette question, c'est que la pollution, c'est invisible, donc c'est très difficile de l'identifier. Est-ce que c'est pas justement ça qui la rend encore plus difficile à identifier et à prévenir, notamment pour vous, pour l'APA, par exemple ?
Bonne question. Oui, c'est vrai que comme c'est une... des choses qu'on ne voit pas. On utilise aussi quotidiennement des produits pour utiliser sa maison, pour purifier sa maison. On va utiliser les huiles essentielles en se disant ça va changer l'air, alors que en fait on rajoute des polluants à une atmosphère qui est déjà polluée. Et c'est vrai que on n'a pas l'idée que ça peut venir nous provoquer des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus, par exemple, à la qualité de l'eau qu'on va boire. C'est vrai qu'on a beaucoup de sujets par rapport à ça. Alors que l'eau qu'on boit, finalement, ça va être 1,5 litre par jour, en moyenne. Mais l'air qu'on respire, c'est 15 000 litres d'air par jour. Donc on n'imagine pas ça. On n'y pense pas forcément parce que, effectivement, respirer, c'est automatique et on n'a pas à y penser pour devoir respirer. Respirer, ça se fait automatiquement. Mais effectivement, c'est une pollution plus importante, finalement, que la pollution de l'eau.
Et justement, on lit pas mal de chiffres sur le sujet, sur Internet, mais ils sont très difficiles à interpréter parce que c'est très scientifique et c'est pas du tout accessible pour tout le monde. Moi, je me pose une question, c'est quoi la tendance actuellement de fond ? Est-ce que la situation de l'air dans nos intérieurs, elle se dégrade ? Ou au contraire, la sensibilisation fait que ces dernières années, il y a une tendance plutôt positive ?
On n'a pas forcément d'études qui montrent si c'est plus ou moins pollué par rapport aux dernières années. Ce qui est sûr, c'est que l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a bien défini qu'on est 5 à 10 fois plus pollué à l'intérieur de son logement plutôt qu'à l'extérieur. Et ça, que ce soit maintenant ou il y a des années en arrière, ça reste valable.
Et est-ce qu'on est tous égaux face à cette pollution ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables justement à cette pollution ?
Tout à fait. Les personnes déjà qui ont des problèmes respiratoires, évidemment, ça va être des personnes qui vont être plus sensibles aux polluants de l'air, puisque ça va venir directement impacter au niveau des poumons. Mais il y a aussi les femmes enceintes qui peuvent respirer du coup les polluants et ça peut avoir des impacts sur la grossesse ou sur le fœtus ou sur l'avenir de l'enfant plus tard dans sa vie. Et il y a aussi les personnes âgées ou les enfants, justement, qui sont aussi plus vulnérables. Toute personne qui a voilà, une pathologie ou une personne âgée, personne enceinte ou des enfants sont plus vulnérables face à la pollution de l'air.
Et je me tourne du coup vers Barbara, qui est notre experte santé à la maison de quartier. Toi, qu'est-ce que t'en penses, enfin, qu'est-ce que tu vois sur les effets concrets de cette pollution? Est-ce que tu en as discuté avec des habitants, par les ateliers? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as observé?
Alors moi, pendant les ateliers, j'avais beaucoup de... Enfin voilà, à Moulins, il y a du mal logement. Les bailleurs sociaux n'entretiennent pas forcément. Il y a beaucoup de logements où il y a de l'humidité, ce qui provoque en effet des maladies respiratoires chez des personnes. Et alors, j'ai connu l'APA tout bêtement, parce que je savais pas qu'il y avait de la sensibilisation qui pouvait être faite comme ça à grande échelle. Et c'était grâce à un webinaire proposé par la CPAM sur la qualité de l'air dans le logement. J'ai découvert aussi le rôle de CMEI. Et voilà, je les ai contactés parce que je trouvais ça intéressant de travailler sur ces problèmes de logement directement avec les habitants. Et c'est vrai que, alors, on a déjà fait une première session l'année dernière avec l'APA. Là, on en a mis une seconde en route qui a commencé en avril. Il y aura une prochaine session encore en fin d'année à partir du mois de novembre parce qu'on propose une session sur trois ateliers. Et ce qui était ressorti, c'est que les gens, ils connaissaient un petit peu les pictogrammes, par exemple, sur les produits. Mais pour eux, à partir du moment où ils avaient mis des gants pour l'utiliser, bah, c'était OK. Sauf que du coup, ils ne pensaient pas que, en effet, il y avait des choses dans l'air. Que c'était dangereux aussi pour des enfants en bas âge, qui sont encore à quatre pattes, qui mettent tout à la bouche, etc. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça a commencé un peu à éveiller les consciences. Et voilà, et du coup, ils ont trouvé ça relativement intéressant et de changer aussi leurs habitudes au quotidien, donc d'aérer plus souvent, en effet, parce qu'il y a aussi de se dire, finalement, on croit que c'est plus pollué à l'extérieur qu'à l'intérieur, alors qu'en fait, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de polluants. Qu'en faisant brûler des bougies qui sentent bon, ça va purifier l'air alors qu'on nous vend du rêve, hein, c'est pas ça du tout. Et du coup, voilà, je trouve qu'il y a un vrai travail à faire auprès de toutes les populations, hein, parce que moi, pendant longtemps, j'ai utilisé des bougies chez moi, pas parce que ça sentait mauvais, mais juste pour le plaisir, l'ambiance, voilà. Et je me rendais pas compte à quel point c'était nocif. Et je trouve que c'est important de mettre le doigt là-dessus. Alors non seulement pour notre santé, pour l'écologie aussi, de réduire un peu l'utilisation de tous ces produits qui servent un peu à rien, hein, qui marchent pas en vrai. Et aussi parce que ça a un impact économique, c'est des produits qui coûtent vraiment très cher. Et c'est pour ça que nous, à la suite des ateliers de l'APA, on propose des ateliers plutôt pratiques. On va apprendre à fabriquer sa lessive. Parce que, en plus, c'est quelque chose une fois qu'on a lavé notre linge, si on utilise des produits qui sont trop toxiques, on les porte et ça peut provoquer aussi des réactions de la peau. Donc, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour le porte-monnaie, parce que la lessive, je sais pas si vous avez vu, moi je fais ma lessive maintenant depuis des années, mais quand je vois le prix des lessives dans les rayons, je trouve ça fou. Voilà, donc ça a un impact sur plein de choses, évidemment essentiellement sur la santé, et voilà, je trouve que c'est important d'en parler, et j'espère qu'on pourra continuer à mettre des ateliers comme ça en place régulièrement pour toucher un maximum de public à Moulins et au-delà.
Et moi, je m'interroge sur un sujet. On parle pas mal de polluants éternels depuis quelques temps, hein. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus, les PFAS. Est-ce que ça a un lien, ces substances-là, ou ça n'a rien à voir avec la pollution de l'air intérieur?
Alors, les PFAS en particulier, est-ce qu'on peut les retrouver dans l'air? Pour moi, c'est plus des produits qu'on va retrouver sur des ustensiles de cuisson ou ce genre de choses. Donc, ça va plutôt avoir un impact directement sur les aliments qu'on va consommer, et donc là c'est plutôt par la voie digestive que ça va être ingéré, et donc ça va se retrouver dans notre organisme, mais il y a multitude de polluants, la plupart vont se retrouver quand même à l'état aussi gazeux, et c'est ça qui va créer la pollution de l'air qu'on va respirer. Donc il n'y a pas que les PFAS dont il faut s'inquiéter.
Oui, ça, en fait, ça fait peur à tout le monde parce que C'est un mot voilà, qui est alarmiste, éternel, on est condamné. Mais finalement, il y a beaucoup plus que ça qui joue, en fait.
Oui, c'est ça. Et ce n'est pas parce que c'est des polluants éternels. Si un polluant n'est pas éternel ou considéré comme tel, il n'a pas d'impact sur la santé, au contraire. Et la plupart des polluants peuvent rester de toute façon un certain temps polluants, entre guillemets, présents dans notre environnement. Et c'est vrai que pour tout ce qui est polluants chimiques, les polluants qu'on va retrouver par exemple dans les produits ménagers, on va les retrouver plusieurs heures dans notre environnement, dans notre air. Et par exemple, les polluants des matériaux de construction, la peinture, les colles pour coller les parquets ou je ne sais quoi, on peut les retrouver plusieurs mois, voire plusieurs années dans les logements. Donc ils ne sont pas éternels, ouais. Mais ils peuvent rester longtemps à notre contact.
Et justement, vous, du coup, avec votre rôle, vous êtes conseillère médicale en environnement intérieur. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre travail?
Alors, nous, on intervient justement donc, auprès des personnes qui ont une pathologie respiratoire ou allergique, et ou allergique, à la demande des médecins. Donc, généralement, c'est des pneumologues, médecins généralistes, pédiatres, quelques allergologues qui vont nous prescrire des visites. Parce qu'ils pensent que la pathologie dont souffrent leurs patients est influencée par l'environnement. Et donc le but, c'est d'aller au domicile, repérer les polluants qui sont présents, expliquer en quoi ils ont un impact sur la pathologie du patient, pour qu'on puisse aussi, du coup, après, donner effectivement des conseils pour limiter ces polluants au maximum dans le logement, et donc à terme, améliorer la santé respiratoire, et pourquoi pas limiter le nombre de traitements et en tout cas améliorer le bien-être et la santé du patient ou de la patiente.
Est-ce qu'il y a des cas typiques que vous rencontrez? Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple, par exemple, de ce que vous voyez souvent comme situation?
La maladie pour laquelle on intervient le plus dans les Hauts-de-France, ça va être l'asthme. Typiquement, c'est souvent associé à de l'allergie, c'est souvent des asthmes sévères. On a d'autres pathologies plus rares mais graves qui sont vraiment liées à l'environnement, qui s'appellent les pathologies d'hypersensibilité. C'est un petit peu technique, mais voilà, c'est les prescriptions qu'on a le plus. Et après, en cas typique de polluants dans les logements, effectivement, moi j'interviens surtout sur la métropole lilloise et on a beaucoup de soucis, effectivement, d'humidité. Et on n'a pas toujours la main sur donner des conseils aux personnes. Il faut savoir déjà d'où vient l'humidité. Et on essaye de donner des conseils pour pallier à ces problèmes-là ou à d'autres polluantes que les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont. Et que là, par contre, elles ont la possibilité, par exemple, si c'est ne plus allumer la bougie tous les jours, bah ça, on peut le faire plus facilement que de réparer une fuite sur laquelle on ne peut pas intervenir nous-mêmes.
Oui, parce que je pense aussi, enfin là, c'est une question ouverte, mais aux personnes qui sont en logements sociaux, pour le coup, s'il n'y a pas trop d'action du côté des bailleurs, j'imagine que la situation, elle est plus ou moins bloquée.
Bah, c'est ce que j'ai appris, en tout cas, avec l'intervention de l'APA, c'est qu'en effet, il faut nettoyer les moisissures, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aux bailleurs à prendre ses responsabilités et d'agir vite, parce qu'il y a des logements qui ne sont pas entretenus depuis relativement longtemps. Voilà, donc chacun doit faire sa part du boulot, quoi.
Oui, c'est ça. Nettoyer les moisissures, si on n'a pas trouver et réparer la cause, elles vont revenir. Ouais. Et nettoyer les moisissures, repeindre tous les ans ou tous les 6 mois ces murs, ça expose à d'autres polluants chimiques, là, pour le coup, pour rien, entre guillemets, puisqu'on n'aura pas réparé la source et on aura juste nettoyé vite fait. Et voilà, on n'aura pas réglé le problème en profondeur.
Et justement, du coup, Barbara, pendant les ateliers qui ont eu lieu à la maison de quartier, les publics qui ont participé, c'était des publics plutôt vulnérables.
Oui.
Donc des publics de vulnérables. Est-ce qu'ils ont affirmé que leurs habitudes ont changé? Est-ce qu'ils sont plus vigilants sur ces questions-là ou au contraire, ils peuvent être un peu désemparés parce que, comme on dit, s'il n'y a pas d'action plus globale, c'est parfois difficile d'avancer.
Bah là, le enclencher des changements, c'est facile parce que c'est individuel. Là, pour le coup, c'est à la maison. Et c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui avaient les yeux grands ouverts en se disant ah oui, quand même, ça a un impact, pas que sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, voilà. Et du coup, ouais, il y en a qui étaient assez stupéfaits, qui ont changé pas mal de choses.
Enfin, on voit bien que cette question de la qualité de l'air, c'est pas juste une question sanitaire, plutôt, au vu de ce que vous avez dit aujourd'hui, une question sociale, en fait, qui touche au logement, à la précarité, à des habitudes de vie qui sont pas forcément les bonnes. Quels sont les publics sociaux qui sont les plus confrontés à cette question de la pollution de l'air ? Est-ce qu'il y a des profils sociaux qui se démarquent ou au contraire, c'est plus varié que ça ?
Non, c'est plus varié que ça. On visite les problèmes d'humidité. Effectivement, on va les rencontrer chez les bailleurs, mais on va aussi les rencontrer chez les propriétaires qui se retrouvent, par exemple, avec les inondations qu'il y a eu ces dernières années au niveau du Pas-de-Calais. Ils sont propriétaires de leur maison, mais ils sont confrontés à des problèmes d'humidité qui sont importants et qui sont pas si facile que ça à régler. Et sur l'utilisation des produits ménagers ou des produits parfumés pour la maison, ça, on va retrouver partout, peu importe la catégorie sociale des familles chez qui on va.
Au niveau de la prévention, c'est une prévention qui fonctionne ? C'est une prévention qui arrive à toucher tous les publics ?
Oui, on a vraiment des visites sur tous les âges et puis toutes les catégories et sur toute la région. En tout cas, nous, on est une plateforme régionale, donc on va vraiment partout dans la région. Et donc, on arrive à toucher beaucoup de monde. Et peu importe ses connaissances aussi de base, on va dire, sur le sujet, il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Et si on allait chez les CMEI, il y aurait même des choses à améliorer chez eux aussi.
Ben moi, je sais que pour avoir fait le premier atelier, parce que moi, j'aime bien participer à chaque fois aux premières interventions, voilà, tout m'intéresse et c'est pour ça que j'adore mon travail. C'est qu'en santé, on apprend tout le temps. Mmh. Mais du coup, moi, ça m'a permis aussi de l'expliquer à mon entourage et de l'expliquer aussi à ma fille, qui est fan des bougies. Hein, hein, autant vous dire qu'elle adore ça. Ben voilà, au moins, ça m'a permis aussi de la sensibiliser. Donc, elle l'utilise encore parce que voilà, c'est une ado et qu'elle écoute à moitié. Ceci étant dit, elle a quand même diminué sa consommation de bougies, oui. En tout cas, et qu'elle l'allume beaucoup moins souvent parce qu'elle sait que quand même il faut faire attention, quoi. Donc je pense que la prise de conscience est importante et c'est aussi pour sensibiliser l'entourage, la famille, les amis, à la sortie des écoles, bref, en discuter, en parler et que l'information circule en tout cas.
Et c'est vrai que nous, en visite, c'est souvent où on distribue donc nos documents de sensibilisation avec les conseils qui sont repris. Et c'est quand même régulier où, si vous me donniez un flyer pour ma sœur, comme ça je vais lui expliquer. Est-ce que vous pourriez faire une visite pour telle ou telle personne ? Donc on donne les coordonnées pour pouvoir prévoir la visite. Voilà. Donc on essaime aussi. Par ce biais-là.
On peut vous contacter aussi nous-mêmes, c'est pas que les médecins qui nous orientent vers vous.
Il faut quand même passer par le médecin pour que le médecin évalue l'état de santé et voir s'il y a nécessité de faire une visite, mais si on est intéressé, on peut tout à fait en discuter avec le médecin. Et on peut appeler la PPA pour avoir plus d'informations aussi, savoir si on peut bénéficier de la visite, ou même juste avoir des conseils aussi au téléphone, ça nous arrive de faire aussi.
Super. Okay. Donc ça, c'est pour moi savoir.
Et on a plein d'actions de sensibilisation, pas qu'à Moulins, effectivement. On a pas mal d'actions de sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur, mais aussi la qualité de l'air extérieur, parce qu'on s'intéresse aussi, dans notre association, à cette pollution-là. Et on fait pas mal de stands, d'ateliers, un peu partout dans la région et très régulièrement.
Alors, pour conclure cette émission... si on devait retenir finalement quelques gestes simples à appliquer chez soi ou au quotidien pour améliorer la qualité de l'air intérieur, quels seraient-ils ?
Le premier, ça va être le renouvellement de l'air, donc l'aération, pour diminuer la concentration des polluants à l'intérieur. On l'a vu, on l'a dit, la concentration en polluants, elle est 5 à fois plus importante. Même si on habite, j'ai l'habitude de dire, en face du périph, on est toujours plus pollué à l'intérieur. Et donc, aérer son logement en ouvrant les fenêtres en grand pendant 10 minutes, en faisant des courants d'air plusieurs fois dans la journée, au minimum matin et soir, ça permet d'évacuer ces polluants. Après, ce qui est intéressant dans le renouvellement de l'air, ça va être aussi un système de ventilation efficace, continue, qui permet de renouveler l'air justement en continu. Mais si on a une ventilation, il faut quand même aérer régulièrement. Et après, pour les autres conseils, en fait, globalement, ça va être de limiter les sources. Donc, éviter d'utiliser trop ou trop souvent les bougies, limiter le nombre de produits ménagers qu'on utilise, un multisurface ça va suffire à nettoyer et la cuisine et le sol et la salle de bain, pas besoin de multiplier le nombre de produits. Pareil pour les animaux, par exemple si on a des allergies, bah, évidemment c'est mieux de pas avoir d'animal, mais même si on n'est pas allergique, avoir 4, 5 chats, chiens, forcément ça va faire plus de poussière, plus de poils, donc... limiter le nombre de polluants, éviter d'avoir trop de plantes, ça va être surtout ce genre de conseils. Limiter les sources de polluants et favoriser un bon renouvellement de l'air de la maison.
Ok, merci. Barbara, tu peux peut-être nous rappeler les dates donc des prochaines interventions.
Ouais, alors le prochain cycle démarrera avec la PAL le 17 novembre. Ce sera dans notre local Trévise, qui est notre local intergénérationnel dans le quartier de Moulins. On est à 5 minutes de la maison de quartier. Le 24 novembre, toujours à Trévise, on fera un atelier sur la fabrication de lessive maison. Et le 1er décembre, on fera l'atelier sur le déodorant maison.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur la problématique de la qualité de l'air dans le logement. On remercie donc Mathilde Druel de l'APA et Barbara de la Maison de Quartier pour leurs interventions. On va retenir du coup que la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet sanitaire, social, environnemental qui nous concerne toutes et tous, hein, comme vous nous l'avez rappelé Mathilde. C'était Florine sur Radio Moulin et on vous remercie pour votre écoute.
Merci Florine.